plu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Présent ferme.
Il y a très longtemps, alors que la planète n'était encore qu'océan et désert, des transformations majeures se produisirent. La structure du globe se modifia. Le continent unique formé à la surface se partagea en plusieurs morceaux qui se déplacèrent. Des montagnes se formèrent, l'espace occupé par la terre augmenta. Des espèces qui vivaient jusqu'alors dans l'eau sortirent peu à peu de leur milieu d'origine pour rejoindre la croûte terrestre et l'atmosphère. Les algues devinrent des plantes, qui d'année en année se multiplièrent en nombre ainsi qu'en variété, jusqu'à recouvrir l'ensemble de la planète. La période qui suivit fut celle d'une relation incessante entre l'eau et les végétaux, au point que, même à la mort de ces derniers, l'union perdurait toujours. De cette fusion naquirent des couches de boue végétale enterrées dans les sous-sols du monde, qui, avec l'âge, se superposèrent avant de se tasser enfin et se solidifier sous la pression et la chaleur de leur nouvel environnement. Ainsi apparut le charbon. Des centaines de millions d'années plus tard, le minéral d'origine végétale, jusqu'alors enfoui sous les profondeurs du temps, fut rattrapé par les convoitises d'une nouvelle espèce arrivée depuis peu sur Terre. L'Homo sapiens, l'homme savant, comme il s'était lui-même appelé, organisa méthodiquement l'opération. Exploiter la roche noire allait lui permettre de produire de la chaleur et de l'énergie, comme jamais cela n'avait été possible auparavant avec le bois. L'unique difficulté serait d'éventrer la terre nourricière pour récupérer le fruit de ses entrailles, cette part du soleil éteint qu'elle abritait secrètement en son sein. La césarienne eut lieu et la rupture fut profonde. L'Homo sapiens, qui s'était déjà désigné sous le nom d'Homo economicus, s'abandonnerait dès lors totalement à la technique et à la rationalité, au prix de tout ce qui n'en a pas. Le temps et l'espace allaient être bouleversés bien au-delà de l'échelle du nouveau mammifère. Très vite, le forage fut entrepris par l'Homo sapiens. L'extraction du minerai dut se faire en plusieurs étapes. D'abord, la terre fut creusée à l'aide de machines afin d'accéder au filon. Une fois le minerai trouvé et l'abattage effectué, il fallait le transporter. Le puits principal fut équipé d'un ascenseur, également appelé la cage, permettant aux mineurs d'être déposés au fond et aux minerais d'être remontés.
Encore une nuit d'insomnie. Le sommeil s'apparentait désormais à un continent lointain pour lequel elle avait trop de bagages. Les huiles essentielles de camomille n'y faisaient plus rien. Il est des fatigues si lourdes que même les bras de Morphée ne peuvent les prendre en charge. Ce soir, la traversée de l'obscurité semblait plus difficile que d'ordinaire. La fièvre, d'habitude tapie entre ses colères et ses rêves, s'était levée, prenant d'assaut son quotidien lisse et froid. Une secousse sous forme de frisson, un tremblement de nerfs accompagné d'un vent de contradiction. Elle aurait voulu pouvoir éviter la révolte de son corps, ne faire qu'un avec elle-même, donner la réplique à toutes ses contradictions sans jamais faillir au rôle qui lui était assigné. Mais l'agitation portée par sa chair en avait décidé autrement. Un flot incessant de pensées dégoulinait le long de son front. Son cerveau, plus que jamais en veille, sonnait l'alerte devant la montée en température du tourbillon qui l'animait. Cela faisait quelques mois qu'elle avait quitté la capitale afin de trouver le repos qui lui manquait. Violentée par le fracas de la ville, elle s'était éloignée de quelques kilomètres au nord, en proche banlieue, dans ce qui deviendrait bientôt le Grand Paris. Le calme environnant de sa nouvelle résidence, initialement porteur de changements et d'espoir, devint rapidement facteur d'anxiété et de culpabilité. Elle en voulait à cette ville dortoir de ne pas lui apporter le bonheur promis aux gens de son âge et de sa condition, et puis elle avait honte de ne pas vivre avec l'engouement propre à son ascension sociale. Après tout, l'argent ne lui manquait pas. À partir de là, tout devait être possible, pourtant, inexorablement, la frustration revenait frapper à sa porte pour lui rappeler que ses tentatives resteraient vaines. Le mouvement qui la conduisait du bas vers le haut, quel qu'en soit le confort, ne lui laisserait jamais le choix de la direction. Son véhicule n'était rien d'autre qu'une cage, au cœur d'une seule et unique dimension, la verticalité. Vivre à l'ordonnée, éviter la côte et les à-côtés de l'abscisse. Un trajet d'un point à un autre, une distance, plus ou moins longue, selon ses origines. Des embouteillages à perte de vue, une vision de toute façon restreinte, prête à écraser tout ce qui existe dans le sens de la largeur ou de la longueur pour prendre de la hauteur. Dans ce monde, on finissait par oublier ce qui pouvait exister autour, sous des angles de vue différents, pour ne se soucier finalement que de sa position entre le sommet et le fond. À mesure que son organisme s'éloignait de la torpeur, le vertige la gagnait. Au plus profond d'elle-même, une danse avait fini par s'engager au rythme des battements rapides de son cœur, poussée par ce silence où elle perdait pied, petit à petit. Il lui fallait se raccrocher à quelque chose, et vite. Ce fut le téléphone. Posé sur la table basse, il représentait à lui seul un pont vers le monde extérieur. Un élément stable et déterminé sur lequel elle pourrait s'appuyer quelques secondes. Elle attrapa son portable, fit glisser deux de ses doigts le long de l'écran avant que la lumière n'apparaisse, puis composa le numéro de SOS médecin. Au bout d'un quart d'heure, elle obtint une réponse d'un agent qui lui fit savoir qu'ils étaient débordés sur la Seine-Saint-Denis, avant de lui conseiller de plutôt appeler le 15, le numéro du SAMU, afin d'obtenir la liste des médecins de garde disponibles. Cette fois, une voix féminine prit le relais de la tonalité. Après une série de questions, le nom et les coordonnées d'un médecin de garde lui fut transmis par celle-ci. Cela ne l'aida malheureusement pas. Au bout du fil, quelqu'un lui dit à nouveau que les services étaient dépassés par le nombre d'appels et puis que, de toute façon, une simple grippe ne constituerait jamais un motif d'une urgence suffisante pour se déplacer. La communication se termina par ces mots. « Demain, allez voir votre médecin traitant. Au revoir. » Le lendemain, elle tenta de se soumettre à la conclusion à laquelle ses conversations téléphoniques l'avaient amenée la veille, mais cela allait s'avérer impossible. Le médecin qui s'occupait d'elle habituellement se trouvait toujours à proximité de son ancienne adresse à Paris. L'énergie exigée par les transports aux heures de pointe étant presque plus importante que celle nécessitée par le travail, elle abandonna l'idée avant même de la mettre en pratique et préféra se rendre dans un cabinet non loin de chez elle. Au 17 rue de la Solidarité, le docteur Zourachkov était absent. Une jeune remplaçante avait pris le relais. Celle-ci lui fit signe d'entrer dans son cabinet après lui avoir serré la main. Elle lui expliqua que cela faisait déjà plusieurs jours qu'elle avait senti la maladie venir. Tout avait commencé par des picotements à la gorge et des éternuements, puis son nez s'était mis à couler jusqu'à ce que son état se dégrade encore. Gorge enflammée, migraine, courbature, nez congestionné, tout. Envers et contre tous ces mots, elle avait quand même été au travail du lundi au vendredi, mais le samedi, le recul aidant, elle s'était rendue compte que les deux derniers jours, elle n'avait su être qu'un zombie, traversant les bureaux et les réunions comme un courant d'air chargé de microbes. Cet état second qui criait à ses oreilles que ça n'allait pas, elle ne l'avait entendu que tard, très tard peut-être trop. Il n'y avait rien à faire. Il faut se mettre au lit, se reposer et attendre que le virus passe. Une grippe, ça dure bien 8 jours, vous savez. Vous en avez tous les symptômes, je vais vous arrêter 3 jours. Sur le chemin du retour, les quelques mots prononcés par le médecin se mirent à résonner au creux de sa mémoire. 3. Le chiffre se redessinait sous des couleurs menaçantes pour finir par s'éclater contre les parois de son crâne. Il apparaissait désormais comme une mauvaise note, qui ne trouvait aucunement sa justification dans l'examen qu'elle venait de subir. Elle se repassait la scène, les tableaux en série au mur, la sonnerie ininterrompue du téléphone, le sourire impersonnel. 3. Oui, c'était bien le 3 novembre qu'elle avait signé son contrat. Dès le lendemain, elle avait intégré son poste, 10 ans auparavant. Depuis, elle avait suivi les consignes à la lettre. Faire respecter les délais, supporter toutes les combinaisons. Les chiffres, elle les avait considérés jusqu'à leur donner plus que ce qu'ils ne lui avaient appris. Pourtant, ils n'avaient jamais été là lorsqu'elle avait eu besoin d'eux. Pour preuve, le docteur n'avait pas calculé sa tension ou évalué sa température afin d'effectuer une appréciation correcte de la maladie en présence. Non, la réalité avec les chiffres, c'est qu'ils n'étaient jamais à nos côtés. Ils nous tombent juste dessus pour nous rappeler notre position de sous-fifre. Le jeudi suivant, au matin, elle fit ce qu'elle savait déjà qu'elle ferait 3 jours auparavant. Le prolongement de son week-end n'avait pas suffi à la remettre sur pied. Dès la première heure, elle retourna au cabinet médical. L'accueil ne correspondit en rien au précédent. Depuis les premiers mots, la tension existante devint palpable. « Pourquoi venez-vous me voir ?» interrogea la doctoresse d'un ton glacial. « Je ne suis toujours pas rétabli, je peux donc pas me rendre au travail ce matin, je viens donc pour... »« Attendez, on n'arrête pas le travail en raison d'un simple rhume. Vous n'avez pas à décider de ne pas aller au travail pour une petite grippe. Écoutez, c'est moi le médecin, il est hors de question que je vous fournisse un arrêt de travail sur ce motif. » Travail. Le mot avait été lâché avec toute la pression qui lui était liée. Un moyen comme un ordre de remplir le cahier des charges de sa vie. Elles y étaient soumises, l'une comme l'autre, ainsi qu'à l'ascendance et la sentence de la science. Oui, de nous deux, c'est vous le soignant, et c'est bien pour cela que je viens vous voir. Maintenant, si vous estimez que mon état ne mérite pas un arrêt maladie, je vais me mettre en congé, puisque dans l'état actuel des choses, je reste incapable d'assurer une journée en continu. Elle se sentait craquer avec le grincement du grain de sable entre les rouages de la machine. La pression menaçait ses tympans, mais elle restait patiente. Bientôt, l'industrie fournirait aussi des nerfs d'acier. Bon, moi je commence à en avoir marre. Ça fait une semaine que je suis en remplacement à Saint-Denis, là, et les gens ne viennent me voir que pour avoir des arrêts de travail. Ça y est. Les motifs de la mise en accusation apparaissent clairement. 2 chiffres. 9-3. Département de tous les fantasmes, repère de fraudeurs et de parasites. Au cours de cette scène, le médecin jouait le rôle de victime, alors qu'il détenait également le pouvoir de juge. La maladie, évacuée comme ses raisons, était innocentée alors que le malade prenait le statut de coupable ou tout du moins de suspect. Écoutez, je vais pas vous forcer à m'attribuer quelques jours de repos en plus. Je reprends mes affaires, je vais me débrouiller autrement. Écœurée, elle se leva. Devant cette assurance virulente, le docteur réagit vivement, porté moins par les remords du défaut de soins que par la peur d'une plainte entraînant sa propre mise en accusation. Bon, ça ira, je vais vous le faire, l'arrêt. C'est vrai que j'avais effectivement noté la dernière fois que vous étiez très fatigué. Bon, je vous donne 2 jours de plus. Lundi matin, 8h55. Elle s'arrêta devant ce grand bâtiment, à la façade teintée de gris, qui lui tenait de lieu de travail. La fièvre n'avait pas disparu, mais les symptômes, mis à part la toux, s'étaient dissipés. Elle ferma les yeux, comme pour fuir les images qui s'offraient à elle, mais rien d'autre n'apparut derrière ses paupières qu'un profond trou noir. Entre le fond et le sommet, il n'existait qu'un itinéraire, celui de la dépossession. Une fois empruntée, trop nombreux étaient ceux qui s'y rendaient. Et elle en faisait partie.
Au Saint-Hilaire, touchez Régine, tout se passe au fond, au fond. C'est comme dans les mines, comme dans les mines de charbon. Ceux qui travaillent dans les mines descendent blanc, remontent noir. C'est ce qui m'arrivait chaque soir. Au Saint-Hilaire, chez Régine, j'y ai connu une mineure avec une mèche de cheveux blancs
qui rayonnait contre son front. Comme une lampe de mineur au Saint-Hilaire, touché Régine, tout se passe au fond, au fond, au fond. C'est comme dans les mines, comme dans les mines de charbon. Lorsque je pris sa taille fine, j'en eus le grisou dans les mains et des sueurs au creux des reins. Comme les mineurs au fond des mines, en l'aimant je prenais des risques. Je savais que j'allais souffrir, moi qui ne pouvais lui offrir que des diamants de tourne-disque au Saint-Hilaire. Boucher Régine, tout se passe au fond, au fond, au fond. C'est comme dans les mines, comme dans les mines de charbon. Un soir, bien sûr, elle fit des mines à une mine d'or, un joli cœur. Je sentis un marteau piqueur qui me défend, c'est la poitrine. J'ai compris que c'était le final. Je voyais se marrer la galerie. C'est la première fois que l'on me vit remonter au jour, la gueule toute pâle au Saint-Hilaire. Touché Régine, tout se passe au fond, au fond, au fond. Mais je me dis en consolation que pour un pavé pour de bon, rien ne vaut les vrais mines.
Toute une machinerie fut mise en place pour procéder au tri du fruit de l'extraction. Les cages remontant du fond de la mine passaient dans les culbuteurs. Le contenu constitué de charbon, de pierre, de terre, de bois et d'autres déchets était acheminé sur les tapis roulants. De chaque côté de celui-ci se trouvaient les trieuses, chargée d'enlever toutes les impuretés et dans certains cas de classer le charbon selon son rendement.
Ses bagages à bout de bras, elle glissait sur un tapis roulant qui aurait pu paraître démesuré s'il n'avait pas été saturé de monde. Porté par l'automate, il lui fallait suivre le pas, rapide, devant et derrière elle. Afin d'éviter de se faire bousculer, il convenait de respecter le rythme et de ne surtout rien perturber. Cela faisait maintenant presque 24 heures qu'elle avait claqué la porte de chez elle pour naviguer entre enregistrement, salle d'embarquement, escale et vol. Défier les lois de la pesanteur et surplomber tout ce qui avait été son monde lui avait procuré un sentiment de légèreté inouïe. La mégalopole, vue d'en haut, semblait aussi insignifiante qu'une fourmilière à ciel ouvert. Elle venait de récupérer son sac. Celui-ci demeurait presque vide alors que sa tête restait pleine. Elle avait emporté avec elle toute la poésie de sa vie décousue, l'ensemble de ses mots noués les uns aux autres qui s'assemblaient au fil des phrases. Habillée maladroitement de chacune de ses expériences, sa quête était celle d'un environnement assez chaleureux pour se mettre à nu et laisser tomber le prêt-à-penser. Alors qu'elle planait toujours au creux des nuages, portée par les mélodies du vent auxquelles elle avait accordé ses notes, une voix, instantanément rejointe par celle des messages préventifs préenregistrés, la tira de ses rêveries. La dernière tonalité avait connu une envolée assez haute pour lui parvenir, peut-être fallait-il donner suite. Une nouvelle fois, le même message lui fut adressé. « Vous travaillez ?» Machinalement, elle répondit la vérité. « Non. Changez de fil, s'il vous plaît. » Brutalement, ses yeux se tournèrent vers son interlocuteur, sa rétine s'imprima du logo de l'immigration canadienne avant que son regard ne croise celui qui la toisait depuis trop longtemps déjà. Le sol se dérobait sous ses pieds, encore et encore, elle en était maintenant consciente. Tout ce qui monte doit redescendre, mais rien ne pouvait encore déterminer où sa chute prendrait fin. À l'aéroport JFK, où s'était effectué son transit quelques heures auparavant, une barrière, armée de deux pancartes, séparait la voie qui menait au contrôle migratoire. La première était destinée aux arrivants des pays riches, la seconde aux migrants venus du reste du monde. Elle avait suivi celle qui correspondait aux couleurs de son passeport avec, à ses talons, les aiguilles du cadran poussiéreux de l'apartheid. Ici, le décalage horaire importait peu. La surveillance savait s'adapter à tous les fuseaux ainsi qu'à toutes les saisons, tel le fruit d'une mécanique indépendante de son environnement. Pour l'heure, elle allait laisser ses affaires, ses droits et ses privilèges au portique de sécurité. Et tout ce que les caméras, la biométrie et les rayons X ne pouvaient sonder serait laissé à l'appréciation des agents en présence. Creuser, fouiller avec attention jusqu'à en extraire les conclusions nécessaires. D'où venez-vous ? Depuis combien de temps ne travaillez-vous pas ? Qu'avez-vous fait tout ce temps ? Comment subvenez-vous à vos besoins ? Afin de vous défendre, vous disposez du droit d'appeler un avocat. Avez-vous déjà été poursuivi dans votre pays d'origine ? De combien d'argent disposez-vous actuellement ? Que venez-vous faire au Canada ? Un état de siège sur ce siège d'un sale état. Ce qui ne devait être qu'une simple formalité se transforma en interrogatoire. Sa seule certitude résistait dans la faute qu'elle avait commise lors de la première réponse. Dans ce genre de situation, et plus sûrement de la place qu'elle occupait, il valait mieux mentir. Mais de cette vie qu'elle tentait de se réapproprier pour mieux la partager, rien n'était moins à conserver que les apparences. Elle dévoila un pan, pas long, de son existence en prenant soin d'omettre quelques détails. Cela faisait 5 ans qu'elle habitait Paris, elle y avait été étudiante, caissière, puis babysitter. L'arrêt du travail lui avait permis d'appréhender la musique autour de nouvelles perspectives. Elle s'occupait toujours des enfants dans son entourage, à qui elle avait d'ailleurs distribué son album enregistré pendant son temps libre, mais cela avait lieu en dehors du salariat, comme la plupart de ses échanges. Depuis l'âge de 25 ans, elle bénéficiait du revenu de solidarité active, RSA, l'équivalent de 400 € et quelques miettes par mois, ce dont elle s'accommodait parce qu'elle ne payait pas de loyer. Les questions s'affinaient comme des prises de sens qui lui perforaient la mémoire. Cernée par la curiosité, les soupçons et le mépris, aucune ouverture ne paraissait se dessiner. Un homme, sur lequel était suspendu un uniforme, prit son journal intime et se mit à l'examiner sous toutes ses coutures, puis ce fut le tour de son téléphone. Elle manifesta son opposition avec les premiers mots qui traversèrent sa gorge. « Vous n'avez pas le droit, ce n'est pas légal !» Presque instantanément, on lui rétorqua. « Le droit ? Êtes-vous résidente ou citoyenne canadienne, mademoiselle ?» En réaction, elle secoua la tête nerveusement. L'agent la plus gradée lui ordonna de changer de place. « Quand vous aurez un meilleur comportement, vous reviendrez afin qu'on continue. » Elle obéit et s'assit dans le fond de la salle. Sur les murs trônaient drapeaux et tableaux impersonnels. Le bruit des talkie-walkie intervenait de façon permanente au milieu des uniformes. De longues minutes plus tard, 2 agents vinrent la chercher et encadrèrent ses poignets de menottes. Elle riposta. Pourquoi lui faisait-on subir tout ça alors qu'elle avait toujours coopéré ? D'un souffle qui frôla son dos, elle entendit chuchoter. C'est seulement la procédure. L'ordre avait été donné de la conduire dans les sous-sols de l'aéroport en centre de rétention, là où l'on parquait les étrangers dans l'attente de leur renvoi ou de leur libération. Sur la route de sa cellule, elle croisa une jeune Asiatique, mais à aucun moment elle ne put rentrer en contact. Elle fut enfermée, puis interrogée à nouveau. Quand il fut clair qu'il ne restait rien à négocier, elle finit par lâcher. « C'est bon maintenant, laissez-moi partir, il est hors de question de toute façon que je reste au Canada, vous êtes un pays fasciste !» De retour derrière les barreaux, elle eut juste le temps de regretter de ne pouvoir fumer avant que Morphée ne l'aide à s'évader.
Enfin, les déchets, les déblais, les poussières, tout ce qui était inexploitable serait tout simplement déposé à proximité de ces installations et allait former un talus qui prendrait des dimensions très importantes pour finir par devenir une petite colline artificielle, le terril, également nommé Crassier.
Elle avait poussé au pied des montagnes de ciment à la périphérie de la ville et de sa vie, au nord-est, sur le trajet des gaz fuyant les usines alimentées par ses pairs. Nourrie par le sale air du prolétariat, entre les fiches de paix et les fichiers des gardiens de la paye, ici le capital serait sa petite ceinture et comme ailleurs, la fin justifiait les moyens. Très tôt, son nom avait été associé à un tempérament de feu. Son sang chaud avait assez coulé pour laisser des traces et lui forger une réputation de tête brûlée. Au dire de ses profs, sa mise à l'écart venait du fruit de son inadaptation, dont les racines semblaient évidemment culturelles ou génétiques. Déficit d'attention, hyperactivité, impulsivité. Rapidement, elle fit l'objet de signalements, son énergie s'affirmait indomptable. Malgré son jeune âge, rien ne lui échappait, si ce n'est la chance. Elle savait donc que le dérangement qu'elle occasionnait, s'avérait être moins le fait de ses actes que celui de ses positions. Comme toutes les mauvaises graines du bac à sable mouvant, son destin était de disparaître après avoir contemplé ses pieds s'enfoncer. Surtout pas de relever la tête. Au bord de l'asphyxie, chacun se débat pourtant frénétiquement pour survivre et recherche l'oxygène vers le haut. Quand le phénomène touche une foule, il n'est pas rare de voir les corps tenter de s'escalader, bien que cela renforce plutôt le mouvement inverse. Planté là, au cœur de la spirale pyramidale, beaucoup avaient essayé de s'en sortir, monter ou percer, sans succès. Elle était tombée au mois de mai, sans rien d'autre à déclarer. On lui reprochait d'avoir trop bien fait son travail, plané sans scrupule au-delà de sommes élevées, alors que le vol lui était interdit. Commerçante autodidacte, avec ses horaires décalés et ses produits bon marché, elle avait écrasé la concurrence. Clientèle, commandes, planning, budget, flux, organigramme. Elle apprenait en cascade et gérait sur le tas. Les stocks s'écoulaient, à l'image d'un long fleuve tranquille, quand un matin, aux alentours de 6 heures, le bruit des bottes fit déborder son lit. Arrêtée, interrogée et déférée au parquet, elle connaissait les règles du jeu par cœur. Il suffisait de bien se vendre pour pouvoir prétendre se racheter. Pourtant, elle préférait de loin voler dans les plumes des rapaces qui lui faisaient la leçon. En fin de compte, le juge détenait lui aussi un portefeuille d'affaires à entretenir, un tableau de bord qui s'appuyait sur un ratio fait, constaté, poursuivi, à respecter et surtout une carrière à soigner. Elle aurait voulu lui parler d'égal à égal, hors du cadre légal ou moral. D'offres, de demandes, et pourquoi pas de conjonctures. Malheureusement, elle ne représentait rien de plus qu'un nom au-dessus duquel flottait la menace de la peine planchée. Ce nouveau type de sanction avec un seuil minimum infligé en cas de récidive. Ainsi, l'entrepreneuse rayonnante fut placée à l'ombre sous mandat de dépôt. Encore aujourd'hui, la surveillance de ces compositions montagneuses se perpétue en raison de leur terrain instable. L'érosion peut causer des glissements de terrain ou le feu se déclencher à l'intérieur du crassier. Au trou, les jours s'enchaînaient les uns aux autres, le vide noyé dans une fumée au souvenir du goudron. À l'arrière de la pièce sombre, ses yeux brillaient des couleurs de la braise. Son front portait les rides lassées par le temps, alors que ses lèvres asséchées retenaient le vent du désert traversé. Le pas assez passé. Jusqu'à présent, l'horizon pris entre les barreaux et les grillages de la prison s'était tenu à carreaux. Ce matin, l'aube s'était levée brutalement, telle une fouille qui révèle les solitudes et vient violer l'intimité. La nuit avait été agitée, suite à la confiscation de tabac qui transitait entre les prisonniers. Bien que l'ensemble des mineurs détenus quasiment se prêtaient à ces échanges, puisque les règles avaient été transgressées au vu et au su de tous et toutes, il convenait de désigner quelques coupables. Ceux-ci risquaient de comparaître devant la commission de discipline au motif de « réseau au sein d'une prison ». Des charges lourdes qui rendraient la sortie toujours plus lointaine et l'enfermement d'autant moins supportable. Dès l'extinction des feux, des cris de consternation avaient pris le pas sur l'annonce de ces nouvelles mesures disciplinaires considérées comme abusives. Exténuée, elle alluma la télévision pour étouffer les bruits environnants et connaître l'heure, puisque les montres étaient également interdites au sein de la prison pour mineurs. L'écran laissa apparaître 2 présentateurs d'une chaîne d'information quotidienne. Elle ne prêtait aucunement attention au contenu de leur discours jusqu'à ce qu'une image l'interpelle. Il s'agissait d'une photo, de mauvaise qualité, sûrement issue d'un téléphone portable, qui mettait en scène un homme en feu. En Tunisie, un marchand ambulant de fruits et légumes âgé de 26 ans s'est immolé par le feu devant la sous-préfecture de Sidi Bouzid, après que les autorités se soient emparées de ses produits. Grièvement blessé, il est plongé dans le coma. Cette histoire, c'était la sienne. Celle d'un marchand ambulant à qui l'on refusait l'autorisation de vendre. Lui vendait de la nourriture, elle des herbes, un commerce désigné à chaque fois comme illégitime et durement réprimandé au cœur d'une société bercée par l'illusion du travail salvateur. Elle sentait la nécessité de réagir monter en elle, avec la force de la lave du volcan prête à exploser. Au bord de l'éruption, isolée, dans une cellule de 9 mètres carrés, que pouvait-elle faire? Non, elle ne demeurait pas seule. Sa codétenue avec laquelle elle avait l'habitude de s'entretenir, dès lors qu'on leur en laissait l'occasion, lui rappela sa présence au son élevé d'une nouvelle page de pub gouvernementale.
Frauder, c'est voler, et celui qui fraude sera sanctionné.
D'un coup de sang, elle débrancha le câble de la télé dont elle tenait furieusement les fils dans chacune de ses mains, de même qu'elle l'aurait fait pour allumer une cigarette, mais cette fois, l'étincelle qui illuminait ses yeux reflétait la lueur issue de ses vêtements suspendus. Un incendie criminel s'est déclaré à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de... Une enquête est en cours. Une fumée gigantesque se dégageait de la prison. Malgré les moyens mis en œuvre pour arrêter les flammes, le feu venu des profondeurs continuait de se propager. De sa cellule, il ne subsistait qu'un mur sur lequel restait inscrit « Tout ce qui monte doit. Du reste, que descendre. » En ce mois froid de décembre, une pression de trop, au mauvais endroit, au mauvais moment, avait initié la combustion de tout ce qui ne pouvait fuir. Un feu de soie né de la marge, qui allait s'étendre comme un drap de flamme venu border la nuit.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages. Je les ai vus. Se payer tout le confort. Quand ils ont tout bas, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Allez, encore une fois, pauvre de feignant là.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est
les carpes. Je me sens perdue, terriblement perdue, aujourd'hui. Quelque chose me dit que ça n'ira pas. C'est un jour avec des idées emmêlées. Je lis « Conférence gesticulée » et je comprends que c'est exactement ça, dans ma tête. Dans ma tête, il y a une conférence gesticulée. Une conférence muette et mouvementée, de la vitesse silencieuse. Des mots circulent très vite, ils circulent en silence, il se précipite dans mon cerveau. Il tourne, il retourne. Des mots en circonférence, des mots fluides dans un fluide vert. Mon cerveau est un aquarium opaque, avec ce fluide gesticulé par des mots. Les mots sont des carpes dans une eau verte, des carpes silencieuses dans l'eau trouble, profonde. Les mots sont des carpes. Voilà ce qui apparaît dans ce silence traversé. Les mots sont des carpes. Les mots sont muets, comme les carpes sont muettes. Y a-t-il un masculin à carpe ? Non. La carpe est féminine, muette comme une carpe, muet comme une carpe. Carpe diem, carpe diem, mais rien n'est tranquille. Tout est remuant, même les mots tranquilles s'agitent. Comme des bolides, ils tournent. Impossible de les arrêter, impossible d'arrêter les carpes et leurs arêtes. Les carpes ont des arêtes, beaucoup d'arêtes, il paraît. Il me semble que les arêtes des carpes ont tué Yvonne. Yvonne, princesse de Bourgogne. On l'a assassinée avec des arêtes de carpe, parce qu'elle était muette. Une muette à la cour, c'est très ennuyeux, a dit la reine. Affligeant, a dit le roi. Humiliant, a dit le chambellan. Le prince s'en fout et rit avec les courtisans de son âge. Son silence est bruyant, son silence se taira. Le chambellan fait préparer la carpe et ajoute quelques arêtes pour faire bonne mesure. Et on sert à Yvonne la carpe dans un plat d'argent pour faire cesser son silence de carpe. Toute la cour observe, les yeux brillants. Le chambellan a concocté le scénario. Et les yeux terribles de la cour, les yeux de la cour, tous ensemble sont si terribles qu'Yvonne s'étrangle de ses arêtes terribles, de ses arêtes de carpe. Carpe du fond des eaux, d'eau visqueuse, du fond des lacs visqueux et saumâtres, du fond des eaux carpeuses. Et Yvonne s'étouffe. Les arêtes de carpe l'étouffent, étouffent son silence de carpe muette. Yvonne est morte. Elle circule, morte, à la vitesse d'un poisson. Ses cheveux flottent et forment d'autres mots, rapides et silencieux. Les rires des courtisans sont loin à la dérive, tandis que se rapproche la noyade des mots. Et les mots se noient et se perdent dans une marmelade visqueuse. Yvonne a disparu, les carpes ont disparu, les rires et sarcasmes des courtisans surnagent. On dirait que mes oreilles se mettent à vivre de chaque côté de la masse glauque. Elles résonnent, elles bruissent. Elles émettent un son, pas une musique, non, pas une musique, un bruit d'essaim. Au début, j'ai cru que c'était une tondeuse à gazon qui travaillait au loin, mais le bruit de moteur arrive jusqu'à moi. C'est compact, ça vole, ça m'entoure, ça me submerge, ça entre dedans, dans l'espace du dedans. L'eau stagnante s'est dissoute. L'intérieur résonne de tous les rires et les mots, mais si vite qu'ils ne s'arrêtent pas pour dire quelque chose. Leur vitesse est prodigieusement intraduisible. Le corps entier essaie de comprendre ces mots en escapade et qui produisent cette sonorité de guêpe, comme si le bruit des seins était la somme de tous les sons qui existent, un langage de tous les mots qui existent, un langage ultime, parlé par des milliers de pattes qui tapent sur des milliers de touches, plus vite que l'ordinateur, plus vite que la vitesse même du son peut-être. Et l'incapacité de traduire ce substrat. Je mets mon doigt dans l'oreille droite, je suis droitière, et le son est plus net. Je comprends que la stéréo complique les choses. Je comprends que la langue des guêpes est une musique concrète, avec des mots concrets, et je fais l'effort d'apprendre, d'apprendre à comprendre les mots du monde.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore. Voilà, lu et approuvé, c'est fini pour ce soir. Ce soir, nous vous avons lu le Présent ferme, écrit par Sistea, qui est paru dans l'ouvrage intitulé Le Charbon, un recueil de nouvelles, sorti en 2014 aux éditions B-Boy Conscient. B-B-O-Y-K-O-N-S-I-A-N. Et en deuxième partie, un texte lu par une de nos auditrices. Le texte s'appelle Dominique Sylvestre aux éditions ACAP et c'est écrit par Nicole Pradalier. Si vous aussi vous voulez nous soumettre des idées de lecture ou même des enregistrements de lecture, vous pouvez nous contacter à luetapprouvé@guyade.org, lui approuvé sans accent tout attaché, Guyade, G-W-I-A-D.org. Le blog de Lu et Approuvé, c'est luetapprouvé.noblogs.org, noblogs, N-O-B-L-O-G-S.org. On se retrouve chaque mercredi, et donc à la semaine prochaine, 23h30, sur Canal Sud.
qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.